Les podcasts du Collège de France.
Bonjour. Merci de participer à cette deuxième leçon du cours de circuits et signaux quantiques. Vous avez dû trouver à l'entrée des tirages. Ce ne sont malheureusement pas les tirages de cette leçon, c'est ceux de la dernière leçon. Progressivement, le système se met en place. On finira peut-être à la fin par proposer les polycopiés de la leçon, juste de la leçon en cours plutôt que celle précédente. Voilà. Donc, je vais continuer ce que j'avais commencé la dernière fois. Je m'aperçois qu'il Je n'ai pas installé quelque chose d'essentiel, qui est le système d'avancement des transparents. Normalement, ça devrait pouvoir fonctionner immédiatement. Voilà. Alors, je voudrais commencer par faire un certain nombre d'annonces. Je vais voilà. Et ces annonces concernent d'abord le site web du cours sur lequel vous trouverez le fichier PDF de la présentation. Alors, donc nous n'avons pas pu tirer les transparents de cette leçon, mais ils sont disponibles sur le site web de la chaire de physique mésoscopique. Donc ils sont, vous pouvez les imprimer avant de venir au cours. Pour nous, c'est encore difficile de faire ces tirages qui demandent plusieurs jours d'avance. Je voudrais insister sur le fait que vous êtes les bienvenus pour poser toutes les questions pendant le cours, après le cours, ou même nous écrire. Voilà l'adresse, une adresse e-mail auquel vous pouvez écrire pour tout ce qui concerne le cours. Et en particulier, j'espère que vous pourrez trouver facilement le site web de la chaire. Donc il faut aller sur le site du Collège de France et suivre ce chemin qui aboutit au site qui est hébergé par le laboratoire Pierre Aigrin à l'École normale supérieure. Je vous rappelle que chaque leçon est suivie d'un séminaire. Donc nous aurons le plaisir tout à l'heure d'écouter Bertrand Relais, qui nous parlera des fluctuations de courant. Je vous rappelle aussi qu'il n'y aura pas de leçon la semaine prochaine, ni de séminaire. Il y a une courte interruption dans le programme. Et donc cette liste donne tous les séminaires du cours. Et nous finirons donc le 24 juin par un séminaire de Jérôme Le Sueur. Alors, cette année, nous abordons les circuits quantiques sous un angle perturbatif. Nous allons nous limiter à des situations où le couplage entre les différents éléments non linéaires du circuit est plutôt faible et peut être traité comme une perturbation. De même pour la dissipation. Et nous aborderons ces questions non perturbatives dans le cours de l'an prochain. Donc aujourd'hui, je vais continuer ce que j'avais commencé dans la leçon précédente et vous parler de la quantification d'un circuit général qui peut contenir plusieurs modes. Donc la dernière fois, j'avais traité l'oscillateur harmonique, un circuit LC simple. Là, nous allons voir aujourd'hui des circuits plus compliqués. Voilà, je vais commencer par une introduction, par vous rappeler ce que nous avons fait la dernière fois. Et le point essentiel du cours de la dernière fois était l'introduction des variables canoniquement conjuguées que sont le flux et la charge correspondant à une branche du circuit. Donc le circuit est décomposé en branches et chaque branche en électricité ordinaire est caractérisée par une tension et un courant. Mais pour quantifier le circuit, il faut passer à des variables qui sont les intégrales temporelles de la tension et du courant. On introduit donc ce flux généralisé. Je n'ai malheureusement pas de bon mot pour ce flux. C'est à la différence du flux habituel, du flux magnétique habituel qui représente le flux du champ magnétique dans une boucle. Ce flux, en fait, correspond à l'intégrale de la tension aux bornes de la branche. La charge est plus simple à comprendre. Cette charge est tout simplement la charge ayant passé depuis le départ dans la branche. Alors, cette question du départ, est symbolisée ici par le symbole moins l'infini dans cette intégrale. Ce moins l'infini correspond à un moment dans le passé où, finalement, le circuit est sans courant ni tension. C'est les conditions initiales que nous choisissons dans tous ces exposés. Alors, j'avais introduit ces deux quantités, le flux généralisé et la charge généralisée, et j'avais établi une correspondance avec, en mécanique, la position et l'impulsion. Dans cette analogie, le courant correspond à la force. Le courant, c'est la dérivée par rapport au temps de cette charge ici, comme la force est la dérivée par rapport au temps de l'impulsion. Et la tension est analogue et l'analogue de la vitesse. On introduit aussi les relations constitutives de la branche. Vous pouvez avoir dans une branche un élément inductif ou un élément capacitif. Un élément capacitif correspond à une masse généralisée et une inductance correspond à une constante de raideur. L'inverse de l'inductance qui correspond à la raideur du ressort dans cette analogie. Et donc, chaque branche peut être caractérisée par une relation de type inductive ou de type capacitive. Ce qui est important, c'est que nous quantifions le circuit en imposant dans chaque branche ces relations de commutation entre le flux généralisé et la charge généralisée. Donc ça, c'est le point de départ de toute cette quantification. Et comme je l'ai indiqué la dernière fois, cette quantification, ces règles de quantification peuvent se justifier à partir du Lagrangien du circuit ou par des considérations plus microscopiques de commutation entre le champ électrique et le champ magnétique. Alors, le problème auquel on est confronté lorsqu'on cherche à quantifier un circuit général, c'est que toutes les branches ne sont pas indépendantes. En fait, il y a toutes ces variables de branches forment un ensemble très redondant. Il faut éliminer un grand nombre de variables, puisque pour chaque boucle dans le circuit, on a cette relation de Kirchhoff qui nous impose que la somme des tensions autour de la boucle est zéro. Et pour chaque nœud, la somme des courants convergents dans ce nœud doit être zéro. Donc, ceci impose des contraintes sur ces variables de branche. Maintenant, ces contraintes sont tout à fait analogues à ce qui se passe dans le monde mécanique. Donc, nous avons vu que ce circuit LC est équivalent à une masse accrochée à un ressort. Et on peut voir de façon mécanique les contraintes imposées par les relations de Kirchhoff. Donc, par exemple, la loi des boucles, qui nous indique que la tension ici aux bornes du condensateur est égale à la tension aux bornes de la self, correspond dans le monde mécanique au fait que la vitesse du centre de gravité de cette masse ici est égale à la vitesse du point d'attache du ressort. Donc ça, c'est bien que finalement la longueur du ressort puisse être différente de la position du centre de gravité de la masse, ces deux vitesses sont contraintes à être égales. De même, la loi des nœuds, correspond à l'égalité du courant module entre le courant qui passe dans la capacité et le courant qui passe dans la self, correspond en mécanique au fait qu'en ce point d'accroche, ici, il y a égalité entre la force du ressort et la force d'inertie correspondant à la masse. Les relations constitutives du circuit peuvent être traduites mécaniquement, elles concernent la relation constitutive du ressort qui nous dit que sa longueur ici est proportionnelle à la force qu'il exerce. Et cette seconde relation constitutive, la relation capacitive, correspond au fait que l'impulsion et la vitesse sont proportionnelles avec le coefficient de proportionnalité étant la masse. Donc, finalement, il y a les dernières relations qui correspondent finalement à la définition de ces flux généralisés, de ces charges généralisées. Dans le monde électrique, nous avons employé la loi de Faraday et la conservation de la charge. Et dans le monde mécanique, cette dernière relation peut se voir comme la loi de Newton. Donc, c'est ce parallèle entre système mécanique et système électrique est précieux, car il nous permet de développer une certaine intuition du fonctionnement des circuits. C'est un guide, il faut l'employer avec soin parce qu'il y a un certain nombre de pièges qui peuvent se présenter. Je voudrais en tout cas insister sur le fait que nous avons établi ces règles de quantification en adoptant un certain point de vue qui est celui où nous prenons comme variable de position ces variables de flux. On peut établir une autre démarche dans laquelle on va prendre plutôt la charge comme variable de position. J'ai dit la dernière fois que les deux solutions étaient possibles, mais la première, en fait, est dans la plupart des circuits beaucoup plus pratique et beaucoup plus naturelle. Donc, le but aujourd'hui, c'est d'arriver à écrire l'Hamiltonien d'un circuit plus complexe dans lequel on va avoir, par exemple, un résonateur linéaire, un résonateur LC, couplé à une jonction Josephson qui va être l'élément non linéaire. Donc, dans le monde de la physique atomique, comme nous allons le voir, ceci correspond à coupler un atome avec un mode du champ électromagnétique. Pour nous, ça va être un exercice dans l'établissement de l'Hamiltonien d'un circuit général. Ce qui va être important par la suite pour aborder les systèmes distribués, en particulier les lignes de transmission. Nous allons passer comme ceci des modes stationnaires, comme dans ce circuit, aux modes propagatifs. Ces modes propagatifs sont très importants. Si on veut traiter l'évolution dissipative d'un circuit, nous avons besoin de ces modes propagatifs qui vont modéliser les résistances, tous les aspects dissipatifs du circuit. Et de même, les instruments de mesure peuvent être vus aussi comme un système, comme des systèmes propagatifs dans lesquels l'information rentre, si vous voulez, pour être traitée, mais ne ressort pas. Voilà. Donc, comment va-t-on faire pour trouver l'hamiltonien d'un circuit général ? Alors, le problème est d'abord d'arriver à trouver un ensemble de variables indépendantes. Et il y a plusieurs méthodes pour le faire, et je vais surtout me spécialiser et, disons, vous décrire ce qui s'appelle la méthode des nœuds. Alors, comment fonctionne la méthode des nœuds ? Donc, je prends un circuit relativement quelconque ici, alors suffisamment complexe pour qu'on comprenne la méthode, et je commence par choisir en fait un nœud de référence. Donc, le circuit est décrit par ces nœuds ici, qui sont ces points noirs, et les branches qui sont ces boîtes grises. Alors, je prends un nœud au hasard dans le circuit. Donc, je le déclare comme étant la masse, si vous voulez. Et à partir de cette masse, je vais visiter tous les nœuds du circuit à partir d'un arbre qui a la propriété de ne pas avoir de boucle. Donc, ce qui est important ici, c'est dans cet arbre vert ici, c'est d'atteindre tous les nœuds sans jamais faire de boucle. Ça définit l'arbre du circuit. Il y a beaucoup de combinaisons possibles. Par exemple, ici, on peut utiliser cet autre type d'arbre. Donc, les possibilités sont vite très grandes. Voilà, je reviens à cet arbre. Maintenant, on voit qu'il va y avoir deux types de branches. Il va y avoir les branches qui font partie de l'arbre, ici, que j'ai colorié en vert foncé, et les branches restantes. Donc, j'ai séparé, finalement, le circuit en deux types de branches. Et les variables indépendantes du circuit vont être ces variables de branches qui se trouvent sur l'arbre. Voilà une méthode qui permet d'isoler un certain nombre les variables indépendantes du circuit. Alors, en fait, ces variables de branches restent peu pratiques et on préfère utiliser des variables de nœuds. Donc, dans cette méthode des nœuds, on est conduit à introduire ce qu'on appelle les flux de nœuds. Ces flux de nœuds, en fait, sont obtenus de la façon suivante. Ils s'obtiennent en sommant les flux de branches jusqu'à ce nœud. Donc, par exemple, ce flux de nœuds phi 3 sera la somme du flux de branches de cette branche, puis de cette branche. Alors, vous voyez, ça devient assez exotique puisque j'ai commencé par introduire des flux de branches, donc qui sont des flux généralisés, qui sont différents du flux ordinaire dans une boucle. Et maintenant, je parle du flux d'un point, d'un nœud. On va plus loin encore dans l'abstraction. Mais ces variables de nœuds sont très pratiques. Donc, c'est ces variables qui vont nous permettre d'exprimer la dynamique des différents modes du circuit. Alors, prenons un exemple. Donc, par exemple, ce flux de nœuds, phi 6, ici, est la somme du flux de cette branche, phi d, et de celle-ci, phi indice e. Tous les autres flux de branches, par exemple ce phi g ici, va être obtenu comme une combinaison linéaire des flux sélectionnés dans l'arbre ici. Donc par exemple, phi g ici sera la différence entre la tête ici, phi 6, et la queue, phi 4. Dans ce type de relation, il y a une constante qui s'introduit. Si vous intégrez la loi de Kirchhoff indiquant que la somme des tensions sur une boucle est zéro, vous obtenez pour les flux des relations de ce type, mais à une constante près, qui est déterminée par les conditions initiales du circuit. Voilà, disons plus mathématiquement, la formule générale qui permet de passer des flux de nœuds, qui permet d'exprimer les flux de nœuds à partir des flux de branches de l'arbre et qui permet d'exprimer les flux de branches restants. Alors, pour mémoire, cette méthode des nœuds est particulièrement pratique dans la plupart des circuits que nous allons considérer, mais il y a d'autres méthodes. Il y a la méthode des boucles, qui est en fait duale de la méthode des nœuds. C'est dans cette méthode, en fait, ce ne sont pas des flux de nœuds que l'on définit, mais des charges de boucles. Alors, il y a aussi un autre élément qui intervient, c'est qu'il est beaucoup plus... il est astucieux, il n'est pas nécessaire, mais il est astucieux de choisir un arbre qui passe par les inductances. Je voudrais vous indiquer, peut-être vous donner un peu un sens de cet arbitraire dans la description du circuit et de vous indiquer qu'en fait, cet arbre que l'on choisit ou cet ensemble de boucles indépendantes est analogue au choix de la jauge en électromagnétisme. Donc, je vais essayer de vous présenter cet argument en utilisant, en fait, une version de l'électromagnétisme qui s'obtient sur réseau. Donc, on considère l'espace-temps à quatre dimensions, pour pouvoir avoir un dessin à peu près lisible. J'ai enlevé une dimension, donc vous voyez, le temps s'écoule de bas en haut sur ce dessin, et il y a deux coordonnées d'espace, x et y. Et je suppose que l'espace n'est pas vraiment continu, mais qu'il est discret, il y a un certain nombre de points discrets, et qui forment un réseau. Donc on peut imaginer que le pas de ce réseau est extrêmement petit, vous pouvez le prendre égal à la longueur de Planck, par exemple, à la plus petite distance de la physique, de façon à, au niveau macroscopique, retrouver une théorie continue pour l'électromagnétisme. Donc là, j'ai sélectionné un point de ce réseau. Et que représente le champ électromagnétique dans ce modèle sur réseau? Alors, le champ électromagnétique, ici, pour ce monde simplifié, a trois composantes. Il y a six composantes du champ électromagnétique, hein, quatre dimensions. Ici, il n'y en a que trois. Donc, il y a deux composantes pour le champ électrique qui sont ces faces, ici, les faces orientées suivant X et suivant Y. C'est les composantes du champ électromagnétique en ce point. Et il y a une seule composante pour le champ magnétique qui finalement va être ici cette face supérieure. Maintenant, on introduit en électromagnétisme les potentiels. Alors, il y a le potentiel vecteur et le potentiel scalaire. Le potentiel vecteur, ici, a deux composantes que l'on peut voir qui vit en fait sur les arêtes du cube, ici. Donc, le potentiel, la composante suivant x du potentiel vecteur est sur cette arête x, ici. La composante suivant y du potentiel vecteur est sur cette arête orientée suivant y. Et le potentiel scalaire, lui, correspond aux arêtes temporelles. Donc, voilà le potentiel scalaire. Alors... en fait, on s'aperçoit dans ce système qu'il y a une information redondante. Si on compte en fait le nombre de faces correspondant à un point et le nombre d'arêtes correspondant à un point, on s'aperçoit qu'en fait, si on se donne les potentiels comme des valeurs, des nombres qui vivent sur les arêtes, et les champs comme des valeurs qui vivent sur les faces, en fait, on voit qu'il y a une information redondante dans les potentiels. Il y a plus de nombres que vous spécifiez plus de nombres en spécifiant le champ électromagnétique en vous donnant ces valeurs sur les arêtes que vous donnez de valeurs sur les faces. Et ça correspond à l'invariance de jauge, c'est-à-dire que en fait, en électromagnétisme, une jauge donnée, on peut associer une autre jauge en ajoutant au potentiel vecteur le gradient d'une fonction scalaire et au potentiel scalaire la dérivée par rapport au temps de cette même fonction scalaire. Et vous voyez, il se passe finalement la même chose dans les circuits. Les branches du circuit sont un peu équivalentes aux valeurs de ce potentiel, de ces potentiels vecteurs et scalaires dans l'espace à quatre dimensions. La différence, évidemment, entre ces deux situations, c'est que le circuit vit dans un espace qui est a priori infini, puisque vous pouvez y avoir un espace de dimension a priori quelconque, puisque vous pouvez avoir des croisements, vous pouvez avoir une topologie extrêmement complexe, et c'est justement ce qui fait la richesse de ces circuits, c'est d'atteindre des situations qui ne se présenteraient pas en électromagnétisme ordinaire, donc des couplages particulièrement spéciaux. Mais cette méthode de l'arbre, par exemple, que j'ai indiquée, correspondrait pour au choix d'une jauge particulière, une jauge particulière, par exemple, dans laquelle on déciderait que tous les U sont zéro. Par exemple, on pourrait, dans ce type de jauge, on peut décider que le potentiel scalaire est nul et donner toute l'information sur le champ électromagnétique dans le potentiel vecteur. Pour compléter ce panorama de la quantification d'un circuit en général, il faut que je précise exactement ce que j'entends par branche inductive, puisqu'on ne peut pas simplement se satisfaire des inductances ordinaires, il faut pouvoir définir une inductance non linéaire. Et en fait, une branche inductive, c'est une branche pour laquelle l'énergie, que l'on peut écrire sous cette forme, c'est-à-dire de l'intégrale de la puissance donnée par le produit IV. Donc, une branche sera dite inductive si son énergie est une fonction seulement du flux. Donc, cette fonction n'est pas forcément quadratique, mais la branche est inductive si l'énergie est fonction seulement du flux. Et ceci correspond à un ressort généralisé, un ressort éventuellement non linéaire. Maintenant, une branche capacitive est une branche qui, de la même façon, a une énergie qui ne dépend que de la charge. Et donc, c'est équivalent à une masse. Le fait que les masses sont très rarement non linéaires en mécanique, c'est une des raisons qui nous font préférer cette analogie entre impulsion et charge. Maintenant, dans cette méthode des nœuds, il y a une conclusion très intéressante auquel on arrive quand on examine la procédure d'élimination des variables et la recherche des variables canoniques dans le circuit. On aboutit à cette règle très simple. Donc, lorsqu'on a un flux de nœuds, sa variable canoniquement conjuguée, au sens des équations de Hamilton, et la charge, toute la charge qui part de ce nœud et qui va vers des capacités. Pas toute la charge, il faut faire attention, mais la charge qui part dans les capacités. Et donc, voici le schéma général. Si vous voulez vous intéresser à cette question, comment on a abouti à ce résultat, je ne le démontre pas ici, mais il est tout à fait possible de prendre un circuit complètement général, d'écrire ces équations dynamiques de former à partir de ces équations un lagrangien. Les coordonnées conjuguées des positions s'obtiennent ici par cette dérivée partielle et on aboutit au hamiltonien en faisant une transformée de Legendre du lagrangien par rapport à ces moments généralisés. Donc voilà, voilà le schéma, il est tout à fait général et cette règle ici qu'on déduit de ce schéma est extrêmement pratique. Donc ça nous permet maintenant, on peut aborder toutes sortes d'exemples. Alors le premier exemple qui vient après un simple oscillateur harmonique, c'est en fait deux oscillateurs couplés. C'est un couplage qu'on peut dire de jauge, hein, c'est un couplage qui ne fait pas intervenir d'autres éléments que les éléments qui existent dans les oscillateurs séparés. Donc c'est un oscillateur, on peut dire série ici, qui inclut dans une branche un oscillateur parallèle. C'est cette combinaison parallèle-série qui permet d'établir ce couplage de jauge. Le couplage de jauge ici signifie que ces deux oscillateurs ne peuvent pas exister séparément, l'un complète l'autre. Et mécaniquement, ça correspond à deux masses qui sont reliées par un ressort et une des masses est reliée à un mur ici par un ressort. Donc là, le hamiltonien s'obtient très facilement. En choisissant cet arbre vert ici, on peut choisir ces deux nœuds ici, qui sont représentés par ces points blancs. Et le hamiltonien du circuit s'obtient facilement à partir de l'énergie de chaque branche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sommer toutes les énergies de branche en ayant pris soin d'exprimer chacune de ces énergies en fonction des variables canoniques du circuit. Alors, donc, on a ici deux flux de nœuds et les charges conjuguées ici, dans cet exemple très simple, sont les charges qui partent ici dans ces capacités. Donc on a la charge Q1 alimente cette capacité C1 et la charge Q2 alimente cette capacité C2. Et donc voici l'hamiltonien du circuit. Ce terme ici de couplage de jauge ici correspond à l'énergie de cette inductance ici qui s'exprime en fonction de la différence entre les flux de nœuds. Je change de pointeur parce que la batterie a l'air de faiblir. Donc, vous voyez, cet hamiltonien ici est parallèle à l'hamiltonien de ce système. Alors, je vous mets en garde contre le phénomène suivant. Supposons que vous choisissez une autre masse, un autre arbre, vous pourriez aboutir à un hamiltonien tout à fait différent, mais un hamiltonien, évidemment, qui correspondra aux mêmes équations dynamiques. Exactement de la même façon qu'ici, vous pourriez, par exemple, choisir, plutôt que cet hamiltonien exprimé en fonction des positions de ces deux masses, vous pourriez écrire un hamiltonien dans lequel vous auriez la position du centre de masse, du centre de gravité de cet ensemble ici, et puis la coordonnée relative donnant la différence des positions. Donc voilà finalement la méthode générale. Donc trouver les variables indépendantes du circuit, trouver leurs variables conjuguées et exprimer l'énergie du circuit en fonction de ces variables. Donc je vous ai donné cette méthode sur cet exemple simple où les inductances en particulier sont linéaires, mais la méthode en fait est valable quelle que soit la relation constitutive des éléments. Si vous intéressez à ces problèmes formels de la façon dont on peut quantifier un circuit absolument quelconque, je vous recommande la lecture en fait de ces trois articles. Ils vont par un peu complexité croissante. Le dernier article écrit par Burkhard, Kor et Di Vincenzo, ici fait le point sur toutes les situations possibles, y compris les situations dans lesquelles, par exemple, on aurait des transformateurs, un cas que je n'ai pas abordé. Donc, maintenant que l'on sait finalement écrire l'hamiltonien d'un circuit, on va pouvoir comparer nos circuits avec des situations très analogues de l'optique quantique, et en particulier avec les expériences d'électrodynamique en cavité, électrodynamique quantique en cavité, par exemple celle effectuée dans le groupe de Serge Haroche, Jean-Michel Raymond et Michel Brune. Alors reprenons notre système composé d'un atome artificiel et d'un résonateur. Donc c'est ce système où on a un mode du champ et un atome, et en fait quelque chose que nous-mêmes, il y a fort longtemps, avions essayé de reproduire, et ça c'était un des circuits primitifs que nous avions imaginés, donc où on a une jonction Josephson ici couplée à une ligne de transmission qui forme un résonateur. Donc dans ces expériences primitives effectuées il y a pratiquement 20 ans, la jonction ici est couplée à un mode, disons, micro-ondes. Et le couplage ici, en fait, est direct. Il n'y a pas de capacité dans ce circuit. De façon plus moderne, voilà comment se présente une expérience où, cette fois-ci, on a deux atomes. Il s'agit de deux boîtes à paires de Cooper qui sont couplés au champ électromagnétique d'une cavité coplanaire. Et cette cavité micro-ondes coplanaire, ici, a un mode qui est représenté ici par ces petites flèches ici qui symbolisent le champ électrique du mode. En fait, c'est quelque chose que nous allons voir par la suite. Le champ électromagnétique ici, dans ce système, est un champ distribué, mais on peut se contenter, dans l'analyse de ce circuit, d'un seul mode, ici, qui correspond à un mode pour lequel la longueur du circuit est égale à la longueur d'onde à la fréquence de travail. Donc cette situation est tout à fait analogue à celle rencontrée dans les expériences d'électrodynamique quantique en cavité. Alors je vais décrire très brièvement ces expériences. On a dans ces expériences deux miroirs, en fait, en pratique, dans le domaine micro-ondes, comme c'est le cas dans les expériences effectuées à l'École normale supérieure, ces miroirs sont supraconducteurs et ils enferment un mode du champ électromagnétique dans une cavité de type Fabry-Perot, et un atome est placé au centre de la cavité. C'est un atome de Rydberg ici, et cette situation est vraiment la plus simple décrivant l'interaction entre le champ et la matière. Donc dans ces expériences, l'atome est considéré comme ayant deux niveaux, le niveau fondamental et un premier niveau excité. Et cette résonance ici, cette transition atomique, est proche de la transition proche de la fréquence de la cavité ici. Et j'ai représenté les différents états quantiques de la cavité, 0, 1, 2, 3, représentent le nombre de photons dans la cavité. Alors ce système classique est décrit par un Hamiltonien, simplifié, qui est une excellente approximation pour ce système, c'est ce fameux hamiltonien de James Cummings, où on a trois termes, un terme représentant le champ, on a donc un seul mode du champ ici, représenté par ce terme ici, avec les opérateurs de création et d'annihilation du champ. Oméga M représente la fréquence du mode. On a un deuxième terme très simple qui est celui de l'atome. L'atome ici est un système à deux niveaux et donc fait intervenir les opérateurs de Pauli de ce spin 1/2 effectif. Et le couplage entre l'atome et le champ est très simple, donc il est bilinéaire. Il fait intervenir une combinaison d'un opérateur du champ et d'un opérateur de l'atome. Et ceci permet d'introduire le couplage ici sous la forme d'une fréquence dite, disons, de Rabi du vide. Alors cette fréquence de couplage, en fait, a une expression très simple qui fait intervenir à la fois des composantes microscopiques et des composantes macroscopiques. Donc cette fréquence fait intervenir le moment dipolaire atomique multiplié par le champ, un champ typique de la cavité qui en fait est le champ correspondant aux fluctuations de point zéro. C'est la valeur quadratique moyenne, si vous voulez, des fluctuations du champ dans la cavité. C'est aussi pour la raison pour laquelle cette fréquence de couplage s'appelle la fréquence Rabi du vide. Maintenant, regardons de quoi est composée en fait cette expression ici. Alors, donc on peut trouver cette expression dans le livre écrit par Serge Haroche et Jean-Michel Raymond. Et il y a plusieurs composantes à ce couplage. Donc si on exprime, si on réexprime le moment atomique dipolaire et le champ, les fluctuations du champ dans des quantités plus fondamentales, on obtient cette expression ici. Et le premier terme est important, il fait intervenir la constante de structure fine. La constante de structure fine vaut 1 sur 137, et donc une petite constante fondamentale. Elle est élevée ici à la puissance 3,5. Donc ce terme aura tendance à être faible. Il y a une énergie caractéristique ici, qui est une énergie caractéristique atomique, c'est le Rydberg. Et je voudrais aussi insister sur le fait, ça interviendra dans la suite du cours, c'est que la constante de structure fine ici peut se voir comme le produit de l'impédance du vide fois le quantum de conductance E carré sur H. Donc on vit dans un monde, le fait que nous vivons dans un monde où la constante de structure fine est petite correspond au fait que l'impédance de radiation du vide est en fait beaucoup plus petite que le quantum d'impédance. Dans cette expression, on trouve aussi ici n, le nombre quantique principal, et ça c'est un nombre qui caractérise l'atome. Et le champ est caractérisé ici par cet autre paramètre sans dimension qui est l'ordre du mode, c'est-à-dire, si vous voulez, le nombre de nœuds dans l'onde stationnaire du mode dans la cavité. Donc, ce qui est intéressant dans cette expression, c'est que vous avez une combinaison entre, disons, des grandeurs qui sont macroscopiques, comme par exemple ce nombre K, qui est choisi en fait par la position des miroirs, par leur taille. Donc ça, ce K ici dans cette expression est macroscopique. Par contre, le N ici correspond au fait qu'on a un atome et finalement, les grandeurs associées à l'atome ne peuvent pas être modifiées. On n'a pas de prise sur cet aspect du système. Alors, je vous décris ce système pour vous montrer comment ce problème du couplage va se présenter de façon très différente dans le circuit. Passons maintenant au cas où on a un atome artificiel, donc une jonction Josephson, couplée à un mode, comme par exemple dans ce type de circuit. Ici, je vous représente deux atomes couplés à un mode, mais en fait, on peut se limiter à un seul atome. Et l'atome, ici, je le représente par ce circuit à gauche. C'est un système non linéaire, mais pour la clarté de la procédure de l'écriture du Hamiltonien, c'est plus simple de considérer qu'il s'agit d'un système linéaire. En fait, dans les expériences, l'atome est relativement faiblement non linéaire. Donc, ce schéma convient tout à fait. Et le rayonnement, lui, les modes électromagnétiques de la cavité micro-ondes, c'est cet autre circuit LC. Alors, notre travail va être le suivant. L'énergie des inductances est simple ici, ça sera simplement l'énergie finalement correspondant à ce flux de branches. Par contre, l'énergie électrostatique correspondant à la charge de ces nœuds ici est plus complexe. En effet, la charge qui est conjuguée à ce nœud est la somme des charges qui va dans cette capacité et dans cette capacité. De la même façon, le système est symétrique. Donc, la charge conjuguée à ce flux de nœuds est la somme des charges qui vont dans ces deux capacités. Alors, pour calculer l'énergie électrostatique du système, il va falloir calculer ce qui s'appelle l'inverse de la matrice de capacitance du circuit. Cette matrice est formée en mettant sur la diagonale la capacité totale des nœuds, ici. Donc, on a pour ce nœud 1 la somme de cette capacité CA et de cette capacité CC. Et les capacités de couplage, dans ce genre de matrice, se figurent sur la diagonale, ici, avec un signe moins. Donc, lorsqu'on veut exprimer l'énergie électrostatique du circuit, il faut passer à l'inverse de la matrice de cette capacité. Cette inversion s'effectue extrêmement simplement. Et on obtient ainsi l'Hamiltonien du circuit. Alors, la nouveauté, c'est qu'on a bien sûr, comme auparavant, cette énergie correspondant aux inductances qui est ici. Le terme nouveau, ici, c'est ce terme de couplage, Q1, Q2, qui fait intervenir le produit de ces deux charges de nœuds. Ce terme-là ne figurait pas dans les expressions précédentes. Donc ici, on n'a pas un couplage de jauge. Les deux sous-circuits existent séparément et cette capacité ici est un élément extérieur qu'on vient rajouter pour coupler ces deux systèmes. Alors, on peut développer ce terme ici. C'est le terme qui va correspondre dans l'Hamiltonien de James Cummings au couplage entre le champ et le rayon et l'atome. Donc, je le réécris en fonction des différentes capacités du circuit ici. Et je peux, cette réécriture, oui, alors je vois qu'il y a un problème de symbole ici, alors il faut peut-être, oublier ceci. Donc tout ce terme ici peut se réécrire aussi sous la forme, en fait, du produit entre la charge de l'atome ici et la tension de la cavité. Et maintenant, je peux faire intervenir le champ électro, les différents modes des circuits, hein, exprimés en termes des opérateurs de création et d'annihilation. Et pour ce faire, j'ai utilisé la procédure assez classique qui consiste à passer de ces variables qui correspondent, qui sont des hermitiennes, ces opérateurs hermitiens, phi et q, à ces opérateurs de création et d'annihilation. Donc ça, ces différentes formules ici vous donnent la correspondance entre ces opérateurs, ces observables hermitiennes ici et ces opérateurs de création et d'annihilation. Ce qui est important, c'est que dans ce terme de couplage, on trouve, à la différence de ce qui se passe en électronique en cavité, en fait, à la fin, que des capacitances. Ce produit ici, oméga 1, oméga 2, est la moyenne géométrique des fréquences des deux sous-systèmes, de l'atome et du champ. Mais toute la force du couplage est exprimée finalement comme un rapport de capacité. Donc j'insiste sur ce point parce qu'il est très important. Donc à la différence des systèmes de la physique atomique où les constantes de couplage sont fixées par les grandeurs fondamentales, ici on peut ajuster les constantes de couplage à notre guise simplement par le choix des éléments du circuit. Et en fait, on verra par la suite qu'on peut augmenter ce couplage en fait, et lui donner une valeur absolument non perturbative. Maintenant, ce couplage a été très nettement observé dans différentes expériences. Je vous montre ce transparent emprunté à Rob Sholkoff qui montre le croisement de niveau obtenu lorsqu'on rapproche la fréquence de l'atome artificiel ici qui est appelée qubit. Cette fréquence qui correspond à cette ligne ici est ajustée avec un champ magnétique. Les atomes artificiels ont une boucle, ils sont constitués de deux jonctions Josephson formant une boucle. Avec un flux, on peut modifier l'énergie de l'atome et le faire passer, enfin l'amener à résonance avec la fréquence de la cavité qui est ici 5,2 GHz. Et donc le couplage, cette fréquence de Rabi du vide se manifeste dans ce croisement évité. Ce spectre ici est obtenu exactement au croisement de niveau et permet de mesurer cette fréquence de Rabi qui vaut 250 MHz, qui représente une fraction notable de la fréquence de la cavité. Du moins, un rapport beaucoup plus grand que dans les expériences d'électrodynamique quantique en cavité. Et nous verrons par la suite qu'en fait, ce couplage peut être encore beaucoup plus grand. Alors, la partie du transparent du bas explique comment ces mesures sont faites, très brièvement. En fait, ces mesures comportent deux fréquences. Une fréquence qui permet de mesurer, de sonder la partie dispersive de la cavité, c'est-à-dire le déphasage des micro-ondes lorsqu'elles traversent la cavité. C'est obtenu par cette partie colorée en jaune dans l'expérience. Et ce déphasage correspond à l'axe vertical ici. Et cette expérience s'effectue en présence d'une micro-onde supplémentaire permettant d'irradier le qubit ici, et qui est donc, ça correspond à cette fréquence ici qui est portée en abscisse. Donc voilà, ce tour d'horizon complète cette quantification d'un circuit en général. Donc je me suis limité à un circuit correspondant deux sous-systèmes, on peut évidemment passer un nombre de sous-systèmes arbitraires. Et un cas particulier que je voudrais aborder maintenant, c'est celui d'une ligne de transmission donc qui contient en quelque sorte un nombre continue de mode et qui permet donc d'exhiber un phénomène de propagation. Cette quantification d'un système de ligne de transmission, c'est quelque chose qui va nous occuper la semaine prochaine. Je vais introduire ce sujet brièvement pendant les quelques minutes qui restent. Alors, d'abord, je voudrais établir un parallèle entre les fibres optiques, qui sont en fait les câbles qui sont utilisés en optique quantique pour transporter la lumière. Donc, ils sont constitués d'un corps, d'un cœur, hein, dans lequel l'indice est élevé, et d'une autre zone dans laquelle l'onde est évanescente, d'indice plus faible. Donc ça, c'est des systèmes très pratiques, des éléments très pratiques de connexion entre les différents éléments du système. Maintenant, ils ont ces fibres optiques, en fait, ont leur analogue dans le monde micro-ondes, et c'est un simple fil électrique. Cela peut surprendre à première vue, puisqu'on sait que si vous prenez votre câblage électrique dans votre maison, vous savez que le courant est apporté toujours avec deux fils. En fait, lorsque vous utilisez des longueurs d'onde qui sont bien supérieures aux dimensions de votre système, de votre réseau, vous pouvez utiliser un seul fil pour propager un signal. C'est quelque chose assez important qu'on va voir par la suite. D'ailleurs, si vous voulez avoir une idée de la façon dont les ondes électromagnétiques se propagent le long d'un seul fil, vous pouvez considérer l'analogie suivante. Il y a confinement du champ électromagnétique le long du fil parce que le fil peut être considéré comme un milieu de très fort indice, du moins un indice plus fort que le milieu extérieur qui est l'air ici ou le vide. Donc la situation est en quelque sorte similaire à celui d'une fibre optique dans lequel le cœur a un indice plus fort que le tout. Donc ce type de guidage électromagnétique est très différent d'un autre type de guidage qui est ce qui s'appelle le guide d'onde qui correspond à un tube creux. Donc ici vous avez l'onde électromagnétique est guidée et réside essentiellement à l'extérieur sur la peau du fil, alors qu'ici l'onde électromagnétique vous pouvez la voir comme se propageant en zigzag, en rebondissant sur les murs du guide. Donc c'est plutôt ce type de propagation ici qui va nous intéresser. Le défaut des guides d'ondes, c'est qu'ils sont très dispersifs. La vitesse de propagation des ondes dépend beaucoup, la vitesse de groupe dépend beaucoup de la fréquence, alors qu'ici, elle est pratiquement constante. Et en fait, pour les systèmes supraconducteurs, essentiellement, extrêmement, extrêmement plate en fréquence. Alors, en pratique, on n'utilise pas un seul fil, mais un fil entouré d'une gaine. En fait, ça, c'est un détail qui, en fait, concerne essentiellement ce qui va se passer si vous avez des tournants. Si votre fil tourne, les tournants vont émettre du rayonnement si vous ne prenez pas soin de mettre un plan de masse dans le voisinage. Alors on prend un plan de masse un écran plus généralement, il n'a pas besoin d'être plan, et on le prend à une distance, il est bon d'avoir une distance ici très inférieure à la longueur d'onde. Donc ceci permet d'arrêter les lignes de champ électrique très rapidement. Et donc, comme je le disais, cet arrêt du champ électrique permet d'éviter le rayonnement dans les tournants. Donc c'est intéressant si on veut avoir des pistes de connexion. Mais le fil central, s'il est droit, peut parfaitement conduire les signaux. Il y a donc dans nos systèmes donc de circuits intégrés quantiques, on utilise une version bidimensionnelle du câble coaxial qui est cette ligne de transmission coplanaire dont les dimensions latérales font quelques dizaines de microns qui doivent être comparées aux longueurs d'onde qui sont typiquement 1 cm. Et ces lignes sont réalisées en métal supraconducteur, l'aluminium ou le niobium, et elles résident sur un substrat isolant, donc silicium ou saphir. Et ces lignes de transmission peuvent être excellentes au point de vue atténuation. Donc la longueur typique d'atténuation, c'est 10 km pour des lignes réalisées correctement. C'est une longueur d'atténuation qui est comparable aux fibres optiques. L'atténuation typique d'une fibre optique aussi, c'est 10 km. Et donc là, on voit l'avantage apporté par la supraconductivité, puisque si vous avez un fil de cuivre d'un diamètre de 1 mm, c'est-à-dire donc très macroscopique, donc la longueur typique d'atténuation, c'est plutôt 700 mètres. Dans des dimensions aussi petites, les métaux ordinaires, non supraconducteurs, auraient des longueurs d'atténuation de quelques centimètres, donc, ou beaucoup moins. Donc là, on voit tout le confort ici apporté par les systèmes supraconducteurs. Donc, très brièvement, je vais m'arrêter dans deux minutes. Mais je voulais simplement vous rappeler la façon dont on modélise ces lignes de transmission. Donc ce fil qui conduit les ondes électromagnétiques peut être modélisé comme une série d'inductances et de capacités en formant ce réseau. Donc dans ce modèle discret, A est la longueur d'une cellule, et C et L sont les capacités et les inductances de la cellule. Donc, on introduit les flux de nœuds ici. On va introduire ces nœuds ici du circuit à partir des tensions ici définies pour les capacités ici. Et on doit considérer aussi le courant qui circule dans les inductances. C'est un exercice assez classique. On peut écrire tout simplement les relations constitutives du circuit pour une cellule, ainsi que les lois de Kirchhoff. Et dans la limite du continu, lorsqu'on fait tendre cette longueur de la cellule vers zéro, on obtient des dérivées partielles. Et ce système d'équations, ici, nous donne les équations de champ le long de la ligne de transmission. Elles se résolvent très simplement à partir de ces combinaisons linéaires qui sont les amplitudes d'onde que j'introduis ici, dont il y a deux amplitudes d'onde indépendantes pour les ondes allant vers la gauche et les ondes allant vers la droite. Cette combinaison linéaire des courants et des tensions dans les cellules fait intervenir l'impédance caractéristique, ce rapport de l'inductance par unité de longueur et de la capacité par unité de longueur. Et l'avantage de ces ondes ici, c'est qu'elles obéissent à deux équations du premier ordre qui sont complètement découplées. Donc ici, on avait des équations couplées. Et là, le choix de ces amplitudes permet de découpler les équations et de découvrir qu'une vitesse de propagation, qui est la combinaison orthogonale entre l'inductance et la capacité, ici, on a le produit des deux, et les solutions sont simplement des ondes qui se déplacent en bloc le long du circuit. Donc, pour terminer cette brève description, je vous rappelle la notion de coefficient de réflexion qui correspond à une résistance placée en bout de ligne. Donc, ce coefficient de réflexion, c'est une fonction homographique de cette résistance. Et on voit dans cette expression que si la résistance a exactement la valeur de l'impédance caractéristique, l'impédance caractéristique est une notion obtenue à partir d'éléments non dispersifs, hein, c'est une combinaison de capacité et d'inductance, eh bien, le coefficient de réflexion sera zéro, c'est-à-dire que l'onde sera entièrement absorbée dans la résistance. Et inversement, ce processus ici peut être compris à l'envers. On voit qu'une ligne de transmission, bien qu'étant un système purement élastique, sans dissipation, vu de ces terminaux ici, peut être équivalent à une résistance. Et on va utiliser cette particularité dans le cours prochain pour obtenir un système quantique dissipatif qui nous permet donc de comprendre les particularités de la friction dans le régime quantique. Je vous remercie pour votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.